Le jour où on m'a dit, il va falloir...
D'imaginaire. Bon, on attend toujours Pierre-Marie, j'espère qu'il est sur la route, qui viendra nous présenter le salon imaginaire qui aura lieu les 27-28 novembre au Grenier Saint-Jean dans quelques minutes sur le 101.5. Donc dépêche-toi Pierre-Marie, pédale. Le professeur Patrice, qui est déjà en train de faire de la science dans le studio de Radio G, il refait les branchements là.
Absolument.
Tu vas nous parler ce soir de...
Du JWST et du retour sur la Lune.
C'est quoi le JWST ?
Eh ben, je vous le dirai tout à l'heure.
Bon. On a avec nous J.R. Commoncroft. Commoncroft ? Comment ça se prononce ?
Tu fais un peu comme tu veux. Commoncroft, j'aime bien moi.
Commoncroft. Ouais. Pour nous parler de La Maison Jaune, ton deuxième roman. C'était il y a un an exactement sur le 101.5 qu'on t'avait interviewé,
ouais,
à la sortie de ton premier Distorsion,
ouais,
roman d'épouvante Made in 49, c'est bien,
ouais.
Et là le deuxième, donc on va en parler dans quelques minutes. Et puis en fin d'émission on aura une chronique de Sébastien, toujours sur les livres-jeux, mais alors cette fois sur des livres-jeux, les Choose Cthulhu. Donc, des livres dont vous êtes l'investigateur, on va dire. Hein. Non, pas des livres dont vous êtes le grand ancien. Ouais, il est coincé dehors. Trop tard, fallait arriver à l'heure. Et voilà, il va nous parler de tout ça. Allez, on s'écoute un petit peu de musique pendant que Pierre-Marie s'installe. Les Fleshtones que certains privilégiés ont pu voir hier soir au Joker's Pub.
My blood's hotter when I try to kiss. She hides her face inside a hoodie. The light was low, the time was right. I saw the moving glowing in the night. If I'm gonna make my move, then this is it. But when she turned to me to kiss her lips, it was a face of a screaming werewolf. To fill my heart with terror and fright, it was a face of a screaming werewolf. Screaming at me all through the
Ouais, les Fleshtones donc étaient en concert, groupe un peu mythique hein, quand même de rock and roll, garage rock américain, de New Yorkais, qui ont commencé quand même à la fin des années 70. Ils avaient joué au CBGB avec toutes les stars de l'époque. Et voilà, ils sont encore sur la route. Et ce dernier album dont on vient de s'écouter un extrait est plutôt pas mal, The Face of a Screaming Werewolf.
En tout cas, ça bouge beaucoup.
Ouais, ça bouge pas mal pour des c'est 60, 70 nerfs, je sais pas trop quel âge ils ont, mais ils bougeaient encore les gars. Et donc ce morceau, c'est aussi, j'ai vu le titre d'un film du 1965, The Face of a Screaming Werewolf. C'était un film américain qui était un 2-en-1 fabriqué à partir de 2 films mexicains qu'ils avaient achetés. Enfin, je sais même pas s'ils ont acheté en fait. Et ils avaient rajouté Lon Chaney avec des poils sur la goule comme ça au milieu, et ils avaient refait un film à partir de ça. La technique de Godfrey Ho, je sais pas si vous connaissez, qui a fait plein de nanars avec un acteur américain au milieu d'un film asiatique.
Je te rappelle que t'es notre spécialiste nanar.
Ok, non mais je me disais peut-être JR...
Là tu vas creuser trop loin. Là.
Tu vas creuser ta tombe.
Allez, parlons du salon imaginaire qui aura lieu à Angers dans 10 jours.
Tic-tac, tic-tac. D'accord, parlons-en.
Ouais.
Parlons-en bien. Donc le salon imaginaire, je fais de la réclame. C'est le 27 et 28 novembre au Grenier Saint-Jean. Alors je vous aurais bien dit qu'il y a un parking juste à côté, la Rochefoucauld, mais la Foire Saint-Martin sera toujours en place à ce moment-là. C'est entrée libre et gratuite puisque la culture doit être accessible à tous. Une centaine d'intervenants seront là pour vous accueillir, comprenant des auteurs, des éditeurs, des illustrateurs. On a mis en avant des listes d'auteurs que vous pourrez trouver sur tous nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Il faut savoir que cette liste n'est pas exhaustive, qu'il y en a plein qui ne sont pas inscrits dessus.
Ah ouais, quand même.
Pour plusieurs raisons différentes.
C'est que ça bouge, une liste ça bouge.
Ouais. Une liste ça bouge, et surtout les maisons d'édition viennent avec des auteurs, et on n'est pas forcément prévenu de qui arrive. Toujours est-il que tous ces auteurs viennent avec deux points communs, le premier étant leur amour de la culture populaire, qui sont là pour partager ça avec vous et vous faire découvrir de nouvelles choses. Et puis le deuxième chose, c'est qu'on est toujours dans l'imaginaire. Même le polar, c'est une forme d'imaginaire, un petit peu, ça fait un peu peur quand même, mais on reste dans l'imaginaire. Patrice.
Oui, toutes les littératures romancées, je veux dire, sont de l'imaginaire. Que dirait Roland Wagner, c'est ça, il dit, il n'y a pas d'imaginaire plus fort que l'autre, quoi. Quand on écrit un roman, c'est de l'imaginaire.
Il y aura même de la romance, hein, parce qu'on aura Roxane Malone qui était dans
Exactement. Le
journal aujourd'hui. Hein,
La nouveauté de Roxane Malone.
C'est son nom.
C'est son nouveau nom. Roxane D'Ambre qui est devenue Roxane Malone.
Pour certains titres.
Voilà, elle a séparé son activité. Roxane D'Ambre reste l'autrice en imaginaire, et Roxane Malone, ça sera la reine du feel good, puisqu'on a on avait du mal à avoir. Elle avait du mal à concilier un peu ses deux vies, un peu tirées de tous les côtés.
Bon, on a aussi le roi du feel bad.
Voilà, on a le roi du feel bad ce soir.
On va en parler dans quelques minutes sur le
feel good. Les deux seront à côté d'ailleurs.
Encore.
Pas très loin en tout cas. Que vous dire de plus ? Toujours science-fiction, fantastique, fantasy, BD, comics, tout ce qui est art graphique, art ludique, puisqu'il y a une matinée ludique. Vous pouvez venir pour soit jouer à des jeux de société que vous connaissez déjà, puisque la Chaumière du Bout des Rêves, un de nos illustres partenaires, sera présent dans les salons et aura des jeux à disposition pour que vous puissiez les essayer. Mais on a aussi des auteurs de jeux de société ou de jeux de rôle qui vont vous faire découvrir de nouveaux jeux, et vous pourrez donc les découvrir à ce moment-là.
Ouais, je peux développer d'ailleurs. Donc on aura en jeu de rôle Arnaud Cuidé qui fera jouer sa nouvelle version de Metal Adventures,
Pirates
son jeu de rôle de Pirates de l'Espace. On aura une escape box de ça. Quand même, j'ai hâte de découvrir cet objet.
Quand on dit
Gauthier
ça,
Wendling.
C'était pas en train de montrer quelque chose.
Ouais, non, ça je voulais dire, donc ça de Stephen King, ça va parler à notre invité. Et puis on aura Osirium aussi, qui est un jeu de plateau qui sera présenté par son auteur Alain Puységur. Et quand même, alors pour le jeu de rôle, c'est clair, il faut s'inscrire. Vous envoyez un mail à lazarfest@gmail.com. Pour le jeu de société, on verra. Et on aura aussi des lots à faire gagner pour ceux qui se déplaceront donc à cette matinée ludique le dimanche 28 novembre matin, on va dire entre 10h et 13h. On fera gagner aussi des bouquins et même des jeux.
Tout à fait. Un service de restauration et une buvette sont à votre disposition, puisque les protocoles sanitaires se sont suffisamment assouplis pour que nous puissions boire et manger sur le salon de manière assise. Le déplacement avec la nourriture n'est toujours pas toléré. Par contre, masque obligatoire et passe sanitaire obligatoire. Malheureusement, comme l'a dit notre cher président, les contrôles vont être renforcés.
Et en animation, quand même, Pierre-Marie, la remise du prix à Heyerdahl.
La remise de la deuxième édition du prix à Heyerdahl, qui est un prix littéraire qui récompense un acteur des littératures de l'imaginaire, cette fois-ci bien ancré dans les littératures de l'imaginaire, même si on demande à ce que ces auteurs-là, ou cet acteur-là, on va dire, ait un pied aussi dans le polar. Donc cette année, c'est Philippe Ward, pour ceux qui auraient loupé cette actualité. Philippe Ward est un auteur assez méconnu, mais un éditeur assez reconnu, puisqu'il a fait découvrir de nouveaux talents, pas mal de très très belles plumes francophones. Après cela...
Et le prix sera remis par Jean-Marc Ligny, voilà, qui lui l'avait reçu l'année dernière.
Après cela, il y aura un groupe de musique qui sera présent, c'est le groupe Saraband. Alors si vous ne le connaissez pas, c'est normal, il s'agit d'une formation orchestrale. C'est un quatuor qui est là et qui va reprendre des thèmes de la pop culture sous une forme un peu plus classique.
Et donc ça, ce sera samedi à 18h.
Tout à fait.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Les horaires, 10h-19h le samedi et 10h-18h
le dimanche. Que dire de plus, à part que certains auteurs ne sont là que le dimanche et d'autres ne sont là que le samedi. Vous pourrez venir donc discuter avec les auteurs, découvrir des nouveautés, puisque oui, il y aura des nouveautés, des inédits qui sont spécialement là pour le salon. Il y aura pas mal d'illustrateurs de tout genre différent, ça va du tatoueur au graffeur, à l'illustration graphique, à l'infographie. Voilà.
Et on aura parmi eux J.R. Commoncroft.
Mais ça, faut pas le dire. On a dit qu'on citait les bonnes choses.
Et Patrice Véry.
Et Patrice Véry.
Justement, on a dit qu'on citait les bonnes choses.
Bon, on va passer à l'interview de J.R., mais on va commencer par ton premier choix musical, Radiohead, Like Spinning Plate, c'est ça?
Ouais.
Tu peux expliquer pourquoi?
Pourquoi? Rapidement. Ouais,
pourquoi
rapidement,
ce morceau? Non, bon, non, t'as le temps. Non, j'ai un peu de temps, là, on a jusqu'à 22h. Ouais.
Pour la façon dont il a été produit, parce qu'en fait, c'est une récup, ce morceau. Ils avaient fait un premier morceau qui s'appelle I Will, et ça leur plaisait pas. Et puis Tom York a entendu les bandes jouer à l'envers, la bande de jouer à l'envers, et il s'est dit merde, la mélodie elle marche mieux à l'envers. Et du coup, il a, avec ces rushs là, ils ont recomposé la mélodie, ils ont utilisé plein de morceaux passés en reverse. Et donc, du coup, bon, sans trop spoiler le bouquin, ça colle bien. Puis en termes d'ambiance, je pense qu'on va être bien dans le ton.
Ouais, donc c'est par exemple les bruits qu'on entend au début là, donc c'est des choses qui sont passées à l'envers.
J'imagine.
Ouais, je pensais que c'était quelqu'un qui jetait des assiettes, mais non, ça ferait pas ce bruit-là. Allez, on s'écoute ça sur le son 1.5 et on retrouve J.R. Commoncroft juste après. We'll be right back. Radiohead, donc dans Imaginaire sur le 101.5, le premier choix musical de notre invité J.R. Cobancroft.
Si on peut s'arrêter à juste ce show-là et ne pas en faire d'autres,
c'est méchant. Tu vas avoir une surprise. Est-ce que tu peux te présenter, J.R.
Rapidement, alors ouais, je suis un jeune auteur angevin, jeune dans la pratique. J'en suis qu'à mon deuxième roman, j'écris depuis 3-4 ans, j'avais arrêté d'écrire pendant 10 ans, donc j'estime que je suis un peu reparti de zéro.
Donc deuxième roman publié.
Deuxième roman auto-publié. Il y a un troisième roman qui est en cours de fabrication. Et voilà, je serais très content.
Fabrication, ça veut dire qu'il est déjà écrit ou...
Il est déjà écrit et il est en train d'être peaufiné, quoi.
D'accord.
Voilà. Fabrication, pas fabrication physique, mais donc le premier jet est terminé. J'emploie beaucoup des termes comme ça, ouais, fabrication, parce que c'est un vrai taf d'artisanat. Surtout que je fais tout seul. Je suis auto-édité, hein, donc je m'auto-édite. Donc c'est, il y a la fabrication, il faut faire la maquette, la mise en page, la couve. Voilà.
Alors t'as quand même des relecteurs, des correcteurs.
Ouais, j'ai des correcteurs. C'est vrai que je dis que je suis auto-publié, auto-édité, auto-publié, il y a quand même une différence qu'il faut noter. Je suis un peu entre les deux. C'est vrai que quand tu parles, tu dis je m'auto-édite, être édité, c'est quand même, il y a une petite exigence quand même derrière de qualité. Et il faut quand même mettre un peu les moyens. Moi, je suis un vrai auteur indépendant, un peu, je fais ça avec les moyens du bord, là, un peu à la dèche, quoi. Mais je fais de mon mieux. Non, je pense que le résultat, il est tout à fait correct. Oui. Donc on est entre les deux encore.
La qualité est là. Sinon, on t'aurait pas invité. Je pense que j'ai autant apprécié ce deuxième roman autant que le premier. C'est très différent quand même.
J'espère.
Il y a un an, dans l'interview, tu nous disais que tu préparais, ou tu fais peut-être déjà prêt, un roman de science-fiction. C'est celui-là ?
C'est... Ouais, c'est alors parler de SF, vraiment, ce roman, il est compliqué. C'est un roman hybride, c'est pas de la SF dans le sens, c'est pas de la science-fiction d'anticipation, c'est pas du space opéra, c'est pas... Il y a un savant fou. Alors, est-ce qu'à partir du moment où t'as un savant fou, où t'as des éléments de physique un petit peu durs, de science dure, est-ce qu'à partir de là, quand tu construis autour de ces thèmes-là, tu peux parler de SF ? Je sais pas. Science-fiction horrifique, peut-être.
C'est pas un savant fou comme dans The Face of a Screaming Werewolf, hein, quand même. Et oui, de toute façon, avec la pochette déjà du livre, on voit qu'on est quand même plutôt dans le quotidien.
Ouais.
On n'est pas parti, effectivement, comme sur les couvertures des livres de Patrice, par exemple.
Ça fait très thriller américain, tu sais.
Ça fait écossais, moi, je trouve, les couvertures.
Ouais, la couverture peut être un petit peu trompeuse. La quatrième, elle précise un petit peu plus les choses.
Ouais.
Bon, là, il faudrait aller sur le site de vente pour la découvrir. En fait, je me sers de la SF pour traiter de thèmes... de ces thèmes de SF un peu durs, pour traiter plutôt de psychologie. C'était pour moi une espèce d'allégorie géante, en fait. C'est vraiment compliqué d'en parler sans le spoiler, en fait.
Ouais.
Toi, tu l'as lu, alors.
Ouais.
Je pense que
je dis rien.
Mais c'est un roman hybride. T'as pour moi une partie de SF, parce qu'on va parler de physique quantique, on va parler de concepts de physique très général aussi, on va aborder ces sujets-là dans La Maison Jaune, mais c'est aussi un roman horrifique, parce qu'il y a un dénouement que j'espère bien poisseux, bien crado. Et
ouais, les 50 dernières pages.
Au courant que tu dois essayer de vendre ton livre.
Qui prend bien au trip. Mais moi ça me fait rêver, moi, quand je dis ça. cool. Et puis un drame psychologique aussi, c'est un gros drame humain sur l'isolement.
Okay. Ouais. La couverture fait penser à huis clos.
Mais il a un peu huis clos dans sa tête, le protagoniste. Peut-être pour résumer
On respire pas beaucoup.
Démarrage du livre, on va suivre François. Donc François, c'est un prodige de la physique, prodige de physique quantique, qui va pas bien. On est sur du feel bad, hein, vraiment, sur des émotions qu'on a tous en commun, mais à certains degrés divers. Et puis il essaye de suivre une thérapie pour aller mieux, ça porte pas spécialement ses fruits. Il est assez hanté par une enfance un peu dégueulasse. Il y a ce mystère de la maison jaune, il y a ce monstre qui le hante, il y a son relationnel avec sa mère, enfin il y a rien qui va. Et on va lui dire soigne-toi, prends du repos, et puis bien sûr il va pas du tout le faire. Il va s'isoler dans son travail, il va tromper son entourage, et les choses vont faire qu'empirer jusqu'à un dénouement, j'espère, glaçant.
Ah, et tu parles, c'est vrai, de science et tout, j'ai pas trop regardé, moi, mais les fentes de Jung, c'est ça?
Les fentes de Jung, c'est...
Ouais. Patrice, tu peux nous expliquer ce que
Je ne peux pas vous expliquer, mais il me semble que c'est un rapport avec les interférences pour savoir si une particule est particule ou onde.
Tout à fait. C'est, ouais, c'est là une des expériences fondatrices qui expose la dualité de la nature d'homme.
Onde corpusculée,
c'est ouais, ça. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui m'a foutu en l'air quand j'étais gamin, quand j'ai découvert ça en physique. Parce que je me suis dit, mec, t'es dans une réalité qui est juste imbitable. Tu peux rien piger, c'est mort. Bon. Et ça m'a vraiment, je te jure, ça m'a choqué, quoi. Ça m'a assis. C'est une merde. Vraiment. Et en plus, alors, mon petit péché mignon, c'est la vulgarisation scientifique.
D'accord.
Fais concurrence à prof Patrice là.
Oh là là, loin de là. On vient de trouver un nouveau chroniqueur, merci.
au contraire.
Non, loin de là, j'en consomme beaucoup, mais je le consomme un peu comme du divertissement, quoi, comme je pense beaucoup de monde. Du coup,
moi aussi,
quand
oui.
t'as une imagination déjà un petit peu sordide à la base, si tu mixes les deux éléments, c'est costaud, ça te donne des idées un petit peu folles. Voilà, et j'ai voulu les exposer dans le bouquin.
Ah, et tout, par exemple, tu cites aussi pas mal, il y a des livres, des célèbres livres de physique et tout, ouais. Tout ça, ça fait partie de ta culture, quoi.
Alors,
j'ai pas été vérifié.
Ça fait partie de ma culture. Les ouvrages cités existent bel et bien, sauf un, qui est un petit easter egg pour les gens qui aiment bien un petit peu la
comme
physique.
Lovecraft, alors, qui mélangeait. Hein,
ah ouais, chose, mais. Faut pas me lancer sur Lovecraft. Faut pas me lancer là-dessus. Tout le monde s'en revendique un petit peu en ce moment.
Ah ouais?
Ouais, je trouve. Enfin, moi, je l'idolâtre. Hein, et c'est vrai que c'est très inspiré, la Maison Jaune, quand même, par l'univers de Lovecraft. Pas dans le sens, évidemment, début de siècle, mais le rapport à la science, le rapport au matérialisme et au vertige. Lovecraft, au début du 20e, il est. Ça lui fout le vertige, quoi, quand il commence à voir la relativité qui apparaît, toutes ces théories-là qui émergent. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait d'autant plus le vertige devant les théories quantiques, comme là où jusqu'où on est arrivé. Et moi, ce vertige, je le ressens. Et je voulais me servir de ce matériau-là pour créer une histoire horrifique.
Non, mais c'est très réussi. Hein. Et pour les influences littéraires, d'accord. Est-ce que tu as des influences cinématographiques aussi?
J'en ai beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop pour un auteur. Je suis beaucoup trop passionné de cinéma. Ça me coûte du temps de lecture. Pour La Maison Jaune, il y a pas mal de Cronenberg.
Ouais.
Je suis très marqué par le film La Mouche.
Ah oui.
C'est quelque chose auquel j'étais exposé.
Qui est un remake,
très jeune. Qui est un remake.
Qui est
un remake.
Qui est tiré d'un roman ou d'une novella, Patrice.
Qui est tiré d'une nouvelle de Georges Angelane, qui était paru en collection Marabout dans les Nouvelles de l'Antimonde.
Ouais. Mais merci, Patrice. Moi, c'est surtout Jeff Goldblum. Hein. Ouais, non, j'ai
c'est
exposé
c'est
ça.
C'est vrai
tout
que Cronenberg, il a été obligé de moderniser les choses avec. Bon, il a utilisé la mutation, un truc comme ça, alors que dans la nouvelle de base, ça se passe instantanément.
Instantanément, oui. L'homme mouche arrive tout de suite. Mais c'est la principale source d'influence cinématographique pour La Maison Jaune. Ça va vraiment être la mouche, le scientifique qui est prêt à tout, quoi. Qui va jusqu'au bout de ses idées, quoi qu'il en coûte. Et l'isolement, surtout. L'isolement d'une pratique. La fragilité dans laquelle on peut se mettre pour atteindre des objectifs qui sont complètement démentiels parfois.
Ça reprend un petit peu pour rester dans la pop culture, c'est le principe, puisque Spider-Man sort, un des ennemis de Spider-Man, le lézard, qui a perdu un bras et qui s'injecte sa propre invention de manière à faire repousser un membre.
Ouais, c'est
l'utilisation de la science et jusqu'au boutisme quand on fera une idée.
Ouais, c'est ça. Oui, en plus, ce personnage du lézard, il est assez obsessionnel. Il a une espèce de refus de sa condition avec ce handicap qu'il a, quoi, cette amputation. Et puis, en même temps, son obsession de faire ses recherches avancent. Et il mixe tout ça. Et franchement, le personnage de François, c'est un peu ça, quoi. Parce qu'il veut absolument retrouver son passé. Il veut absolument comprendre pourquoi on l'a traité comme de la merde étant enfant. Donc ça le pousse à avancer dans des recherches qui vont pas du tout l'aider au final et qui vont plutôt le condamner.
Bon, et parlons du livre. Alors donc, en fait, il est disponible sur Amazon.
Il est disponible chez le diable. Il est disponible chez Amazon parce que pour les auteurs indépendants, ça reste malheureusement la seule solution. Le fait que ce soit la seule solution... ça sera, je pense, un jour un problème, parce qu'ils sont très réglo pour les auteurs, j'entends, j'en sais rien pour le reste. Pour les auteurs, ils sont très réglo, mais jusqu'à quand? Parce que là, on est tous obligés, tous les auteurs indépendants, tous les auto-édités, on est obligés de passer par cette case-là, et c'est vrai que c'est cette case-là qui nous fait vivre, ou en tout cas qui nous permet d'être lus. Donc oui, chez Amazon.
Ouais, et d'ailleurs on le trouve à un prix tout à fait modique en numérique. Hein.
Je démarre.
Tout comme le premier. Ah oui, d'accord.
Je démarre.
1,80€.
Chez Amazon, ça te permet aussi d'avoir un peu un palmarès, savoir comment ça marche, si tu grimpes dans les...
T'as un retour immédiat, c'est vrai que tes lecteurs peuvent te facilement te contacter, toi tu sais si tu es lu, c'est au-delà de savoir si tu es acheté.
Et en plus, tu as des droits d'auteur qui sont quand même en pourcentage plus conséquents.
En même temps, heureusement, je fais tout, je passe des heures de ma vie à faire la correction seule, je fais la couverture, je fais la mise en page, donc oui, pour le moment, les marges pour l'auteur sont très intéressantes.
Pour les auditeurs de 101.5, je voudrais quand même préciser la différence qu'il peut y avoir entre auto-édition et édition à compte d'auteur. L'édition à compte d'auteur, c'est que vous vendez votre âme à quelqu'un qui vous édite à vos frais et qui dit qu'il va tout faire, mais souvent c'est pas le cas. Alors voilà. Que auto-éditer, c'est comme dit notre ami présent, c'est il fait tout de bonne qualité jusqu'à effectivement là, il y a plus qu'à transmettre à la personne qui va soit tirer le papier, mais tout est fait par l'auteur. Quoi.
Tout à fait.
Allez, on s'écoute le deuxième choix de JR sur le 100.5. C'est toujours Radiohead pour faire plaisir
toujours
à Pierre Marie.
Joyeux.
Oui. Climbing Up the Walls. Donc extrait de Hockey Computer cette fois.
Ouais. Oui, nos jeunes amis.
Yeah.
Radiohead, donc, le deuxième choix de JR dans l'imaginaire sur le 101.5. C'est l'heure d'écouter le professeur Patrice. Allez, c'est parti pour le générique.
Ce thème de Starship Trooper de Basil Poledouris fait toujours rêver, je dis ça pour ceux qui se posaient des questions. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une nouvelle de l'espace en fait. C'est pas souvent que je le fais, des fois je parle, oui c'est vrai que je parle souvent un peu de science.
Est-ce qu'il va bien ?
Alors, deux sujets, le premier c'est le JWST. Alors, de quoi s'agit-il ? Ça, c'est James Webb Space Telescope. Alors James Webb, c'était le deuxième administrateur de la NASA, et ce télescope, en fait, c'est le successeur de Hubble. Hubble que tout le monde... Non, je ne le représente pas, tout le monde connaît. Voilà. Donc Hubble qui commence à être un peu usé, qui a quand même duré pas mal de temps. Il était prévu pour être mis au rancard depuis un petit moment. Le JWST a pris du retard, du coup Hubble a été conservé un peu plus longtemps. Alors, pour donner un petit peu quelques chiffres, le diamètre du miroir de Hubble, c'est 2,40 m, et celui du JWST, c'est 6,50 m. Donc, c'est déjà un peu plus grand. Il aura notamment dans ses instruments un spectrographe qui est capable de capter 200 sources en même temps. Bon, et il travaillera plutôt dans l'infrarouge parce que ça permet de capter des ondes qui passent à travers les nuages, tout ça. Enfin bon, l'infrarouge, on voit plus de choses que dans la lumière visible. Alors, évidemment, avec cette taille-là, ça pose un petit problème d'envoi. On ne peut pas l'envoyer tel quel, surtout qu'il va être envoyé par Ariane, qui ne fait peut-être pas 6,40 m comme ça, puis bon, ça pose d'autres problèmes. Donc Ariane, d'ici fin novembre, normalement, si tout se passe bien, à Kourou. Donc Ariane Espace se ronge les ongles, en espérant ne pas se fâcher avec les Américains. Mais si le lancement réussit, comme c'est le cas... Donc 99% des cas pour Ariane, il n'y a pas de souci. Il est prévu donc d'être envoyé à environ 1 400 000 km de la Terre, à ce qu'on appelle le point de Lagrange L2. Alors, dans un interview récent fait par Luc Douin, ouais, dans son émission...
Dans Entre les pages Kézako, mercredi.
Kézako, le point de Lagrange.
Parce que tu en avais parlé dans ton roman.
Voilà, j'en ai parlé dans mon roman, ça qui grignotait le fond. Alors, après Lagrange, je vais pas m'étendre beaucoup dessus, mais en gros, ce sont des points d'équilibre gravitationnel en mouvement. Je dis en mouvement parce qu'en fait, dans l'espace, tout bouge, et on peut pas considérer, par exemple, un point entre la Terre et le Soleil qui soit fixe. Hein, quand on parle d'un point de Lagrange, c'est un point qui tourne en même temps que le reste. Et c'est voilà. Et c'est un point d'équilibre gravitationnel. Le L2, en fait, il est plus loin, enfin, il est au-delà de la Terre par rapport au Soleil. Il est à l'opposé. Le L1, il est entre la Terre et le Soleil. Alors, pourquoi on envoie les satellites au point de Lagrange ? Parce que c'est justement c'est des endroits d'équilibre. Alors, il y en a qui sont instables, d'autres non, mais c'est quand même plus facile de les maintenir avec peu d'énergie. Donc, il va en 30 jours, il va mettre à peu près 30 jours pour arriver là-bas, et 6 mois pour être totalement opérationnel. Avant d'arriver, enfin, pendant les 30 jours de voyage... il va se déployer, parce qu'évidemment, pour l'envoyer, on ne va pas l'envoyer avec ses 6,40 m déployés, il va être un peu plié comme un origami. C'est dommage, ça ne soit pas à la télé, je vous montre un truc, mais... Donc, il va être plié comme un origami, et progressivement, il y a des phases successives qui vont être hyper surveillées, où il va se déployer ses panneaux les uns après les autres, etc. Et donc là, tout ça, ça va prendre une trentaine de jours. Et si tout se passe bien, ben voilà, il sera opérationnel. Après, il y a du test d'instruments. Et puis ensuite, les observations scientifiques démarrent dans 6 mois. Voilà, à suivre. Et a priori, la résolution sera nettement meilleure que celle de Hubble. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des choses, par exemple des galaxies extrêmement lointaines, qu'on verra de manière beaucoup plus fine. Donc, qui dit moyen d'observation plus pointu, dit découverte probable ou réponses à des questions qu'on se pose encore, etc. Voilà, la science progresse grâce aussi à ces envois qui polluent peut-être un peu au départ, dont chacun dit qu'ils coûtent très très cher. Et, petite parenthèse, si on ramène le coût de ce genre de mission au nombre d'habitants par an, en fait, on peut constater qu'il y a certains banquiers qui ont fait pire au niveau dépenses et en moins de temps. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Alors, le deuxième sujet, c'est le retour vers la Lune. Bon, certainement, il y aura peut-être une compétition entre les Chinois et les Américains, mais ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé ça assez original, c'est le projet des Américains et qui a été confié en partie à SpaceX, ceux qui envoient des touristes dans l'espace aussi. Et comme chacun sait, envoyer une fusée actuellement avec les moyens actuels, c'est dépenser du carburant, enfin bon, des ergols, des trucs comme ça. Et donc, quand on met du carburant dans une fusée, on l'alourdit. Et donc, comme on l'alourdit, il faut mettre du carburant pour envoyer ce carburant. Ce qui fait que, ce qui explique, par exemple, si on prend la fusée Saturn V qui a envoyé les hommes sur la Lune la première fois, c'est une énorme fusée qui fait, alors qu'est-ce que j'ai là, 111 mètres de haut. Et pour une petite capsule qui reviendra en finale sur Terre, voilà. Et on dépense beaucoup de carburant. Alors l'idée, c'est, pour éviter ça, c'est de mettre un réservoir en orbite autour de la Terre. Donc ce qui fait, dans un premier temps, on va remplir ce réservoir par des petits allers-retours, qui ne seront pas extrêmement coûteux, surtout que SpaceX a des engins réutilisables. Et une fois que ce réservoir sera en orbite autour de la Terre, ça permettra de ravitailler finalement. Alors la deuxième phase, c'est effectivement d'envoyer un orbiteur à vide, donc qui décolle de la Terre avec peu de carburant, qui va faire son plein avec le réservoir autour de la Terre et qui va se mettre en orbite autour de la Lune. Bon, déjà. Ensuite, autre phase, on va mettre quatre astronautes dans une fusée, qui va aller récupérer l'orbiteur vide autour de la Lune, qui va s'y amarrer. Les astronautes, il y en a deux qui vont rester dans le petit module qui vient de la Terre, deux qui vont passer dans l'orbiteur, qui va atterrir, c'est un gros truc, c'est beaucoup plus gros que le LEM. Ils vont faire leur mission. Quand la mission sera terminée, la fusée redécolle, vient se recoller au petit truc qui est resté en orbite autour de la Lune. Les astronautes, les deux, repassent et reviennent sur Terre. Et l'orbiteur, lui, continue à tourner et pourrait normalement être réutilisé pour un nouvel atterrissage après. Donc en fait, là, on est dans un système complètement différent de ce qu'on a pu voir par le passé. Au lieu d'envoyer une fusée avec un bout de la fusée qui atterrit, qui redécolle, etc., là, on a des étapes et des étapes probablement, si tout se passe bien, réutilisables et certainement moins gourmandes en énergie pour faire l'aller-retour. Donc à suivre. À suivre.
Là, tu as présenté le projet américain. Est-ce que tu as des informations sur le projet chinois ?
Ah bon, qui a des informations sur les Chinois ? Non, parce qu'en fait, on voit bien que les Chinois progressent. Notamment, ils ont très récemment envoyé un petit robot atterrir sur la face cachée de la Lune, ce qui est quand même un exploit, quand même, puisque ça veut dire qu'il faut un relais. Quand on est derrière la Lune, il n'y a plus aucune onde radio qui passe. Donc il faut un relais qui soit excentré et qui fasse la liaison pour que ça marche. Et ça a marché, apparemment. Donc non, ils avancent. On ne sait pas, c'est un peu comme, j'allais dire, les Russes en leur temps, là, quand ils avançaient en concurrence avec les États-Unis, on ne savait pas trop. Pendant un temps, il y a un truc qui marchait, ils disaient, on a envoyé le premier homme. Bon, après, ce qui ne marchait pas, on ne savait pas. Alors que le moindre accident aux États-Unis, bon, on est tout courant. Aujourd'hui, peut-être pas, mais bon.
Très bien, et ben on passe à la chronique de Sébastien dans l'imaginaire avec la sortie française enfin de la série de livres-jeux Choose Cthulhu.
Couverture due à Philippe Casa de l'anthologie imaginaire Monstre caché de 2018 figure un Cthulhu déguisé en inspecteur galactique. Et je soupçonne même, les amis, ce cher Jean-Hugues Villacampa de s'être amusé à en reprendre les traits sur un signet de lecture collector de la bouquinerie qu'il tenait sur Angers, Phénomène J. Tout ceci m'amène à vous parler sur Radio G d'un livre dont vous êtes le héros, L'Appel de Stoulou, qui ouvre la gamme Choses Stoulou. 15 bouquins nous avons en VO. C'est édité pour la première fois en langue française grâce à Chakos et adapté de la nouvelle éponyme de 1926 de H.P. Lovecraft. Le lecteur va devoir enquêter sur l'étrange culte rendu à Stoulou, un monstrueux extraterrestre. Les cultistes en question, à l'aide de Jean-Hugues Villacampa, de différents rituels, en préparent le retour. Le roman-jeu, comment se présente-t-il ? C'est un petit format cartonné classe, la version dite « extrême ». Ça comprend une introduction détaillant quel personnage va incarner le lecteur. Ici, un anthropologue, Francis Walland Thurston. Ainsi que 100 sections écrites, constituant les pages, qui forment l'ensemble des rapides trajets qu'il est possible de suivre, et 11 belles illustrations en noir et blanc. Le héros Thurston reçoit en legs de son grand-oncle Gamel une boîte dans laquelle ont été rassemblés divers papiers et un bas-relief se rapportant à une intrigante déité, Stoulou. Thurston va poursuivre l'enquête dessus, à ses risques et périls, sa santé mentale en jeu. N'ayant pas lu la nouvelle d'origine de H.P. Lovecraft, je n'avais aucune idée de la vraie fin, ce qui allait me conduire ici à échouer beaucoup de fois. Mais néanmoins, persévérons sur le 101.5. De fait, l'auteur Leandro Pinto ne nous fait pas servir des dés pour orienter l'histoire. Il décide d'en appeler à notre sagacité. Lorsque, par exemple, nous avons évalué la dangerosité de tels objets en lien avec la toile d'araignée télépathique que tisse Stoulou sur le globe, un monstre propre à influencer, voire vampiriser les esprits humains. Et vu que Stoulou est monumental, quasi invincible, pour les quelques fois qu'on le croise, l'auteur a raison, élève le défi de le contrer de manière non classique. Dagon même, les amis, autre horreur des étoiles, dispose d'une île sur laquelle nous pourrons accoster. Très tôt, après avoir étudié le contenu de la boîte qui a été léguée au héros, de multiples pistes géographiques s'offrent à lui pour faire lumière sur le nouvel avènement de Stoulou. Des signes précurseurs de la chose ont été consignés dans les liasses écrites de son grand-oncle. À nous de trancher entre toutes les personnes auprès de qui nous pouvons mener l'enquête, jusqu'à faire équipe avec, lesquelles sont vraiment dignes de confiance, car Stoulou n'est pas étranger dans le fait d'en avoir poussé certaines aux portes de la folie. J'ai noté que d'inédits personnages ont été créés pour l'occasion, afin d'offrir un maximum de non-linéarité au récit initial que le livre-jeu Choses Stoulou reprend tout en gardant le sel. Bon point, la possibilité de pouvoir bien des fois faire après réflexion machine arrière est appréciable. L'accent angoissant de l'histoire se détache bien plus, par exemple, dans la destination qui emmène dans les terres gelées du Groenland où des Esquimaux dégénérés louent Stoulou que dans les grandes villes d'Europe type Londres, Oslo, Paris, décrites de façon concise. Le roman-jeu se divise pour moi en deux parties bien distinctes. Premièrement, jeter la lumière sur les dessins du grand ancien, Stoulou, tout en cherchant à localiser son acropole maudite, insulaire, Herlier. Non, je ne suis pas devenu fou allié. Puis partir en expédition maritime vers ses rivages, sachant qu'au choix, deux équipages et associés différents nous y emmèneront avec des fins heureuses ou tristes. L'îlot désertique de Herlier l'entre à l'architecture démente de Stoulou, grâce au pouvoir des mots de l'auteur, est un des passages marquants de l'histoire, tout comme lorsque le dieu cosmique impie se réveille. Le lecteur se sentira véritablement tout petit alors face à l'adversité sans bornes que représente Stoulou en chair et en os. Pour conclure, je vous cite des mots d'Herbert West, un membre de la taverne des aventuriers. Même en connaissant par cœur la nouvelle d'origine, il y a quelques voix qui s'avèrent des choses trappes, malgré le fait qu'elles suivent des passages de l'histoire écrite par le maître. À vous de jouer, les amis! Et rendez-vous bientôt au 101.5 pour une interview avec l'éditeur Chakos. Et plus près en date, retrouvons-nous les 27 et 28 novembre au Grenier Saint-Jean, où se tiendra le salon Imaginaire, à la rencontre, entre autres, de Gauthier Wendling, auteur de la marque de Stoulou, un escape book à 404 éditions et d'autres petites merveilles que vous découvrirez au Grenier Saint-Jean. Bye bye! Allez, on enchaîne sur le 101.5 avec un bonbon Dream Pop, extrait de l'album Euphorie du groupe Video Club. C'est une cover d'un rappeur. What Are You So Afraid Of? Pour de jolis frissons dans ce volet imaginaire tourné sur l'horreur tapis dans la Maison Jaune. Video Club, rappelons-le, qui sera en concert au Shabada le 20 novembre.
Afraid of, is it love wasting your time? What are you so afraid of? Is it love wasting your time?
Club donc dans Imaginaire sur le 101.5 bientôt au Shabada. Patrice, tu avais un truc à rajouter?
Oui, juste,
par rapport
juste
à
une précision, c'est que les informations que je vous ai livrées tout à l'heure, je la tire de cette revue excellente que je vous conseille, Ciel et Espace, qui a d'ailleurs récemment publié un numéro hors série qui s'appelle Fake News dans le Ciel et qui vous expliquera tout sur la Terre plate, l'influence de la Lune et le fait que bien sûr on n'a jamais débarqué sur la Lune.
Ok. Bon, c'est l'heure de l'agenda. Qu'est-ce qu'on a annoncé à part donc le salon imaginaire dans 10 jours au Grenier Saint-Jean? Rien du tout. On va terminer cette émission. Donc on rappelle quand même le livre, le deuxième roman d'épouvante, je peux dire ça.
Ouais, allez.
De J.R. La Maison Jaune, donc aux éditions J.R. Cobbencroft.
Voilà, aux éditions J.R.K. Voilà. Fait maison.
Donc trouvable en e-book et on peut aussi donc se le faire printer en demande.
Ouais.
Printer en demande, voilà.
Tu peux presque considérer que c'est écolo.
Et donc si vous voulez une dédicace, venez au salon imaginaire dans 10 jours au Grenier Saint-Jean. Dans quelques minutes sur le 101.5, on retrouve les voix du Scénarium. Il est là.
Tout à fait.
Donc avec toujours cette partie de Tales from the Loop.
C'est ça, le dernier épisode. Puis j'aurai un invité très particulier.
C'est moi. Ouais. Parler un petit peu des risques tout.
Mais pas que. Non. Je vais te faire parler de beaucoup de choses.
Ah bon, ok, c'est cool. Je vous laisse un choix pour terminer en musique cette émission sur le 101.5. Alors, il y a le nouvel album de Fever Dog, qui est un duo américain, qui est très... c'est des petits jeunes, mais ils font vraiment du rock complètement c'est années 70. Petit. Un peu entre Pink Floyd et T-Rex, je dirais. Sinon, je vous propose... j'avais aussi sélectionné un morceau de Nameless Grave. Alors là, c'est beaucoup moins fun. Il s'appelle The Brookford Horror et qui raconte... Enfin, c'est un peu la bande de son d'une petite nouvelle. Donc, c'est sorti sur les compilations du label IMAD d'Art Catastrophe, Dungeon Saint volume 4, donc où vous avez un petit livret, en fait, les gars du label écrivent des nouvelles et ensuite ils filent les nouvelles à des musiciens qu'ils aiment bien. Ils disent, bah, écris-nous entre 10 et 15 minutes pour ambiancer ce morceau. Vous choisissez quoi?
C'est dur là, de choisir, parce que moi je suis années 70 à bloc, et de l'autre côté ça a l'air vachement alléchant.
Bon, l'expérimentation, toujours. On part pour choisir, ouais. C'est plutôt du Dungeon Saint un peu creepy et un peu c'est low bon, fidélité,
ça.
Donc
voilà. C'est bon ça.
Restez quand même sur le 101.5.
J'ai rien compris à ce qu'il y a.
C'est ce qu'il y a de meilleur.
Pour les Wojcik Sanarium. Et nous on se retrouve dans deux semaines avec l'interview de Florian Soula. Est-ce qu'on pourra rencontrer aussi au Salon Imaginaire? Bye bye, à bientôt. Ouais, grosse ambiance.